Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 53e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier, j'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house. Comment sont-ils apparus, pourquoi, dans quel contexte et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone. C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Après avoir parlé du post-punk et de New Wave au Royaume-Uni, traversons l'Atlantique pour voir quelle direction le punk a pris là-bas. On l'a vu, la scène punk grandit à New York, plus particulièrement aux CBGBs avec Blondie, Patti Smith, Talking Heads, The Ramones et bien d'autres. Ce bouillonnement est dû en partie au fait que dans les 70s, New York est une ville en crise, avec un taux de criminalité qui grimpe en flèche et une désolation économique. Les classes moyennes et plus aisées fuient donc la ville et les prix des loyers baissent drastiquement, permettant à plein d'artistes en devenir de venir tenter leur rêve d'une vie presque de bohème. L'ambiance est au nihilisme avec la guerre du Vietnam qui a lieu, Charles Manson et ses délires meurtriers, beaucoup de jeunes ne voient aucune positivité dans le monde. Dans ce contexte, en 1978, comme les genres de post-punk britanniques qui ont émergé de la scène punk là-bas, c'est un genre états-unien de post-punk qui émerge de la scène new-yorkaise, comme la New Wave britannique et même américaine, avec des groupes comme Talking Heads qui ont évolué du punk vers des formes plus travaillées et post-punk. Des artistes ont expérimenté de nouvelles sonorités, mélangeant funk, jazz et même free jazz, le disco, le minimalisme, dans la continuité de la scène avant-garde new-yorkaise de John Cage ou Velvet Underground. Mais contrairement à la New Wave, ayant atteint le rang de musique pop et un succès commercial, ces artistes ont créé un style beaucoup plus abrasif, atonal, de l'anti-musique avec des anti-mélodies, rejetant les dogmes et le système. Une musique contre le succès commercial qui n'aura pas beaucoup duré mais ayant laissé un impact considérable sur la suite de l'histoire de la musique et ayant engendré quelques enfants. La No Wave. We'll be right back. l'a dit, les influences de la No Wave et donc ses origines sont le minimalisme. Des travaux par exemple de Lamont Young et Steve Reich, le free jazz d'Ornette Coleman, aussi le blues rock expérimental et excentrique de Captain Beefheart ou encore le krautrock allemand de Can ou Faust. La No Wave continue la tendance des groupes avant-garde des 60s et 70s en mêlant musique et beaux-arts comme le faisaient les Velvet Underground et Andy Warhol par exemple. Une autre grosse influence est la façon de crier qu'a Yoko Ono dans ses travaux avec Plastic Ono Band. La plus directe sur la scène No Wave reste sûrement le duo new-yorkais des 70s Suicide, qui joue avec une instrumentation électronique minimaliste et une performance scénique conflictuelle. Ce groupe aura aussi un impact sur la scène post-punk britannique, le rock indus et le rock alternatif. En avril 78, Brian Eno, qui vient entre autres de Roxy Music, vient à New York pour produire le deuxième album des Talking Heads, More Songs About Buildings and Food. Pendant son séjour, il se balade dans New York et découvre les nouveaux artistes et styles émergents. Un en particulier lui saute aux oreilles. Une scène composée d'artistes visuels, des sculpteurs, des peintres qui ne sont pas musiciens et qui jouent des instruments. Eno trouve ça très intéressant, ça ressemble au punk, mais c'est plus connecté aux beaux-arts. Et c'est fait par des gens qui ne savent absolument pas jouer. Il invite donc des groupes de cette nouvelle scène à venir enregistrer un album compilation. Certains groupes comme Theoretical Girls refusent, mais l'album sort bien en 78, nommé No New York. L'album met en avant les groupes James Chance and the Contortions, Lydia Lunch et son groupe alias Teenage Jesus and the Jerks, Mars et DNA. Une des plus influentes figures qui émergera de la scène est justement Lydia Lunch. Elle vient à New York à l'âge de 16 ans et devient rapidement impliquée dans le développement de la scène musicale new-yorkaise et forme son propre groupe Teenage Jesus and the Jerks. Lydia Lunch ne chante pas, elle miaule plutôt, un miaulement viscéral et défiant. Yeah! utilise des couteaux, des bouteilles de bière ou des morceaux de verre pour jouer de la guitare, car selon elle, c'est là où on obtient le meilleur son. Au début des 80s, elle sort avec un certain Nick Cave, qui est alors dans le groupe The Birthday Party. Le groupe est considéré comme No Wave, aussi même s'il n'est pas basé à New York, mais à Melbourne, en Australie. Et leur son est en partie influencé par Lydia. The Birthday Party et Lydia Lunch enregistrent un album en collaboration qui ne sortira que 5 ans plus tard, en 87, intitulé Honeymoon in Red. Aujourd'hui considéré comme une influence majeure sur le mouvement goth, qu'on abordera bien sûr. Mais encore une fois, on peut aussi dire merci, ou pas, au contraire, ça dépend de votre point de vue, à Lydia Lunch, qui a grandement influencé Nick Cave et coche elle-même toutes les cases de la définition de goth. En parallèle, c'est un autre groupe figurant sur la compile No New York qui se forme en 77 à New York, DNA, avec la guitare métallique Darto Lindsay, apportant un son entre free jazz et indus turbulent. Comme le free jazz, c'est un équilibre entre ordre et chaos, ou plutôt un chaos qui retombe toujours dans l'ordre, régulièrement. We'll be right back. avait bien sûr aussi James Chance, qui était l'un des seuls musiciens du mouvement, avec un vrai cursus dans la musique, un vrai saxophoniste qui a appris à jouer. Il joue au début dans Teenage Jesus and the Jugs, et forme ensuite The Contortions, très inspiré de funk en parallèle des influences free jazz communes avec les autres groupes de No Wave. James est connu pour ses jeux de scène conflictuels et même pour la bagarre. Il a par exemple un soir attaqué le critique de musique Robert Christgau, qui assistait au concert dans le public. Lester Bangs, un autre critique très impliqué dans la scène No Wave, dit aussi que James est très énervant et agressif sur scène. Un autre groupe ne figurant pas sur la compile, lui, est connu pour avoir eu la vie la plus courte de tous ces groupes No Wave éphémères, n'ayant sorti qu'un seul single pendant leur période active, The Theoretical Girls. En 2002 qu'une compile de leurs enregistrements studio et live sortira. Peut-être plus proche du son punk originel, le groupe se démarque de ses pairs.
Yeah.
Ben Branker, guitariste dans le groupe, sera une grande influence sur la scène par ses expérimentations et sortira un album solo en 81, The Ascension, dans la veine de ce style. Dans cet album, il explore les résonances que peuvent produire plusieurs guitares accordées différemment. Un des guitaristes jouant sur cet album se nomme Lee Ronaldo, qui sera plus tard guitariste dans un tout petit groupe du nom de Sonic Youth. En 1977, le jeune Thurston Moore, âgé de 19 ans, déménage à New York pour vivre son rêve du rock'n'roll. Il découvre alors le CBGB's, la scène punk et donc la No Wave. Il fonde alors en 81 le groupe Sonic Youth. Si Sonic Youth n'est pas vraiment à la base du mouvement comme Brian Eno, il a grandement participé, comme Eno, à sa promotion et au fait que ce genre ne soit pas resté encore plus obscur qu'il l'est actuellement. Deux ans plus tard, en 83, Sonic Youth sortira son premier album, Confusion is Sex, comprenant notamment une reprise de I Wanna Be Your Dog des Stooges. La fondation d'un groupe maintenant mythique, une rébellion anarchique non contaminée par l'âge adulte, avant que le groupe ne marche dans la célébrité alternative. Et Little Lunch qui est partout fera un truc aussi avec le groupe en 85, la chanson Death Valley 69 à propos des meurtres de Charles Manson. autre groupe qui n'est pas à l'origine de la No Wave, mais qui aura définitivement son importance dans le genre, se nomme Swans, formé en 82. Leur premier album, Filth, sorti en 82, porte bien son nom avec les thèmes de la violence, du viol, du pouvoir et de la dépravation morale. L'album est également pionnier dans la musique indus, le sludge metal ou le rock brutiste. Ce groupe fait passer tous les autres groupes post-punk pour des symphonies agréables. Certains comme Glenn Branca pensent que la compile de Brian Eno New York porte à défaut les groupes qui n'y figurent pas, qui tomberont plus facilement dans l'oubli et seront moins associés au genre alors qu'ils y ont toute leur place. On trouve des groupes comme Gynecologist, UT, Bush, Tetris, Eight Eye Spines ou des trucs plus jazz comme The Lounge Lizards ou John Zorn. Et comme la No Wave n'est pas qu'un style musical mais touche aussi d'autres arts dont le 7ème, le cinéma, John Lurie, membre des Lounge Lizards, ainsi que le premier batteur de Sonic Youth, Richard Edson, joueront d'ailleurs ensemble en tant qu'acteurs du coup dans Stranger Than Paradise du réalisateur punk, post-punk et New Wave, Jim Jarmusch, en 84. Un film sur l'ennui et l'absurdité collant parfaitement à l'esprit No Wave. Au début des 80s, la No Wave se subdivise en disco dance, punk, genre de truc avec des groupes comme The Dance. Post-punk, New Wave sont eux aussi très proches de la No Wave, comme The Pop Group ou The Fall en Angleterre. Même si la No Wave était anti-succès, n'avait absolument pas vocation à atteindre la lumière ou à être une musique pour les masses, et au contraire rester obscure et underground, le mouvement aura eu un impact certain sur la musique qui viendra après, notamment dans le rock alternatif ou le metal par exemple. Ce qui conclut cette courte histoire d'un genre très peu accessible volontairement qui refait surface un peu ces derniers temps. On a par exemple eu ici à Montpellier Lady Lunch à la Altropisme en concert. Peut-être parce que les temps sont justement absurdement horribles encore une fois. Subculture, c'est tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, fréquence 91 de la bande FM bien sûr. Via l'onglet écoutez le direct du site radiofmplus.org ou sur les applis Radio Line ou les radios associatives. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents en podcast pour écouter téléchargement gratuit et illimité toujours sur radiofmplus.org. Et moi, je vous dis ciao et à bas les codes. Just a-